Bonsoir à tous, mes frères et sœurs. Surprise, ce n'est pas M. Gault. Surprise. Jésus a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Et toutes les paroles qu'il a laissées à son peuple sont des paroles pour nous stimuler, pour nous encourager et pour nous donner les moyens de persévérer jusqu'à la fin. Et toute la stratégie de l'adversaire, c'est de nous empêcher d'arriver persévérant jusqu'à la fin. Je voudrais que nous lisions un verset. On le relira deux fois parce que j'aimerais bien qu'il reste gravé en notre mémoire. Dans le psaume 78, verset 9. Quand la Bible parle à bien des endroits des fils d'Éphraïm, comme dans le livre du prophète Osée, par exemple, où il est souvent parlé des fils d'Éphraïm, il s'agit du peuple d'Israël. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos au jour du combat. Je vais vous le relire dans une autre version qui est encore plus précise que celle-là. Les fils d'Éphraïm, tireurs d'arc exercés, ont fait volte-face au jour du combat. La pensée de cette deuxième lecture, c'est qu'ils étaient exercés au combat. Ce n'était pas n'importe qui. Une troisième version nous dit, les fils d'Éphraïm, armés de l'arc, habiles tireurs, ont tourné le dos au jour du combat. Double drame. En ne se défendant pas, ils n'ont pas défendu leurs frères. Et en ne défendant pas leurs frères, ils ne se sont pas défendus. Ils étaient cependant armés et bien entraînés. Ils avaient tout ce qu'il fallait pour se défendre. Ils étaient, on l'a vu, ils étaient habiles tireurs, exercés au combat. Il y avait dans leur carquois les flèches nécessaires pour parvenir à leur fin. Ils étaient armés et entraînés pour ce jour particulier, mais ce jour-là, ils ont tourné le dos au combat. Et l'adversaire qui devait perdre ce combat l'a finalement gagné, non pas parce qu'il était le plus fort, mais uniquement parce que les combattants avaient tourné le dos. Retenez bien ceci, frères et sœurs. L'adversaire qui aurait dû perdre ce combat l'a finalement gagné, non pas parce qu'il avait affaire à des gens non exercés ou non entraînés, mais parce qu'il a eu affaire à des gens qui ont tourné le dos le moment crucial. C'est peut-être, ou ça pourrait être, une stricte application de ce que Jésus a dit un jour, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Ils n'ont pas été présents le jour du combat, c'est un petit peu comme s'ils avaient été dans le camp de l'adversaire. Je désire que le Seigneur m'aide et que le Seigneur nous assiste ce soir pour que je puisse vous présenter trois vérités spirituelles. Premièrement, le combat de l'enfer contre l'Église est incessant. Deuxièmement, le chrétien est très bien entraîné et très bien armé pour ce combat. Troisièmement, bien qu'armé et entraîné, le chrétien a besoin de persévérance afin de combattre jusqu'au bout. Notre premier point, le combat de l'enfer contre l'Église est un combat qui ne s'arrête jamais. Peut-être qu'il y a au milieu de nous des chrétiens qui pensent qu'ils sont seuls à être accablés, seul à avoir des difficultés, seul à être sous les feux de l'adversaire. Et ils pensent que les autres, ça va très bien pour eux. Ils se disent, moi, je suis pris en charge par l'adversaire, ça va mal pour moi, et je plie, alors que les autres ont l'air de bien aller. Jésus nous a avertis en disant, vous aurez des tribulations. Il l'a dit. Et il nous a encore mieux avertis en disant, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quelqu'un dira, il parlait à Pierre ou il parlait à Jean ou aux autres disciples. Vous savez bien que si vous lisez la Bible, Jésus vous parle à vous. Satan nous a réclamé. Le combat a commencé dans le livre de la Genèse et il va jusqu'à la fin du livre de l'Apocalypse. Et le combat dont je voudrais vous parler, ce n'est pas le combat dans la prière pour gagner des âmes. C'est un combat de gagner des âmes. Le combat dont on va parler ce soir, c'est le combat pour résister et rester fidèle jusqu'au bout. Satan ne renonce pas au motif que le chrétien est bien armé. Il pourrait dire, ah, ils sont bien armés, je n'attaque pas. Il ne renonce pas au motif que le chrétien est bien armé, mais il manigance pour que, même bien armé, le chrétien tourne le dos le moment venu. Tout chrétien est confronté dès sa conversion au problème que lui soumet l'adversaire. Tout chrétien. La Bible nous avertit de cela. Elle nous montre que d'autres frères et sœurs aussi sont passés par les mêmes difficultés. Elle nous encourage. Et Jésus nous supplie de tenir ferme jusqu'au bout. Ce n'est pas pour rien que j'ai cité tout de suite en montant sur l'estrade ce verset, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin » ou « qui résistera jusqu'à la fin sera sauvé ». Tout chrétien, tout, T-O-U-T, tout chrétien. Peut-être vous dites, oh, le pasteur échappe, ou les anciens y échappent. Moi qui suis un chrétien moyen, un chrétien dans l'ombre, je suis soumis à toutes sortes de contraintes. Tout chrétien est confronté dès sa conversion au combat spirituel. Personne n'y échappe. Et nous allons voir quelques versets. Par exemple, dans Hébreux chapitre 10, je vous propose le verset 32. Hébreux 10, 32. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Après avoir été éclairés, on pourrait dire, ou après votre conversion, ce n'est pas ridicule ce que je dis là. Souvenez-vous où, après vous être convertis, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 7. L'apôtre Paul dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. » Petite phrase. Mais ça veut dire qu'il a, lui aussi, le long de sa vie, Satan ne l'a pas économisé, il a cherché à le décourager, à le faire tomber, à le rendre infidèle, à l'empêcher de tenir ferme dans les mauvais jours. Et Paul dira, eh bien, j'ai combattu le bon combat. Puisqu'on est dans Timothée, regardons dans 1 Timothée 6, 12, c'est juste une page ou deux en arrière, où il dit, à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Timothée, le serviteur de Dieu, tout à l'heure c'était Paul, maintenant c'est Timothée, le serviteur de Dieu. Allons voir dans Colossiens, où on va voir deux versets, chapitre 2, verset 1er. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée. Et oui, tout à l'heure, on a vu que les fils d'Éphraïm n'ont pas combattu pour eux, et en ne combattant pas pour eux, ils ont condamné leurs frères. Et j'ai dit que c'était un double drame, parce qu'ils ne se sont pas défendus, ils n'ont pas défendu leurs frères, et en ne défendant pas leurs frères, ils ne se sont pas défendus. Paul combattait pour lui, j'ai combattu le bon combat, mais il combattait aussi pour les frères et sœurs. Et au chapitre 4 de Colossiens, lisons le verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Voilà encore un serviteur de Dieu qui était soumis lui aussi aux difficultés, aux combats, et qui avait besoin d'être présent dans la prière pour pouvoir tenir ferme. Les tactiques de l'enfer sont précises, frères et sœurs. Les tactiques de l'enfer, les ordres donnés à l'enfer sont précis. Empêchez-les de prier. Voilà ce que le maître de l'enfer dit à ses serviteurs. Empêchez-les de prier. Et si vous ne vous ne pouvez pas les empêcher de prier, empêchez-les de croire à leurs prières et d'y mettre de la passion. Et si vous ne pouvez pas les empêcher de croire à leurs prières, découragez-les. Et si vous ne pouvez pas les décourager, aveuglez-les par de mauvais exemples. Quelquefois, on peut être découragé parce qu'on voit des choses qui nous font mal. Et on dit, ça, c'est un chrétien, ça, c'est... Et ce sont là les ordres de l'enfer. Aveuglez-les par de mauvais exemples. Et si vous ne pouvez pas les aveugler par de mauvais exemples, usez leur résistance. Usez-les afin que le jour du combat, ils tournent le dos. Voilà ce que l'enfer dit. Nous empêcher de venir à la réunion. Si nous venons à la réunion, nous empêcher de prier. Si nous prions, nous empêcher de croire à ce que nous disons. Et si nous croyons à ce que nous disons, nous user, nous aveugler pour que le jour du combat, nous tournions le dos. Ça, c'était le premier point. L'enfer use les enfants de Dieu de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Le deuxième, il est plus intéressant, frères et sœurs. Le chrétien est très bien armé et entraîné pour ce combat. Nous ne sommes pas dépourvus, mais alors loin s'en faut. Nous ne sommes même pas armes égales. Le chrétien est qualifié par le Seigneur Jésus. Les enfants de Dieu sont dotés par le Seigneur Jésus d'une puissance, d'un nom, d'une arme redoutable et efficace, le nom de Jésus. Oh, ça n'est pas suffisant. On a vu que les fils d'Éphraïm, même armés et même entraînés, ont tourné le dos le jour du combat. Mais il m'est intéressant de dire que le chrétien est très bien armé par le Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit. On lira quelques versets et je vous en citerai d'autres. Par exemple, 2 Corinthiens, chapitre 10. Verset 4. Verset 3. Allez. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Il ne s'agit pas d'une lutte physique, vous le savez bien. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont, qu'est-ce qu'il y a écrit sur votre Bible ? Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Elles sont puissantes parce que Dieu veut qu'elles soient puissantes pour renverser des forteresses. Donc le chrétien est armé et il est même très bien armé. Psaume 24, verset 8. Ce sera un des rares versets que je vous lirai dans l'Ancien Testament. Chapitre 24 du psaume, le psaume 24, le verset 8. Qui est ce roi de gloire ? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Dieu est puissant dans les combats. Et il est même, me semble-t-il, appelé le Dieu des armées. Le Dieu des armées. En deux mots. Attention. Le Dieu des armées. Quelle puissance. Peut-être que il vous est arrivé de dire, ah, je m'en sortirai pas, je tiendrai pas, je suis là, je regarde vers le monde, je regarde vers la Bible, un jour je crois, un autre jour j'ai du mal à croire, un jour j'arrive à prier, un autre jour je n'arrive pas à prier. Dieu est le Dieu puissant. Dans Daniel chapitre 7, le verset 14, si je trouve plus vite que vous, c'est parce que moi j'ai mis des signets, c'est pour cela. Mais faites-moi confiance, je vous le lis. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Avez-vous aimé le mot « domination » ? Sa domination est une domination éternelle. Et puis, je peux vous citer des versets. Par exemple, dans Jean 17, lorsque Jésus commence à prier, et il dit à Dieu, son Père, « Tu lui as donné, en parlant de lui, pouvoir sur toute chair. » Jésus a reçu pouvoir de Dieu sur toute chair. Dans Matthieu 28, à la fin, tout à fait à la fin du chapitre, lorsqu'il prend congé de ses disciples, il dira « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Tout pouvoir. Il me semble que tout pouvoir, ça englobe pas mal de choses. Dans Romains chapitre 14, verset 9, Paul dit « Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » J'espère que vous avez aimé le verbe « dominer ». Christ est mort et il a vécu afin de dominer. Nous ne sommes pas dépourvus devant les attaques de Satan. Nous ne sommes pas désarmés, en un seul mot. Nous sommes pourvus par le Seigneur. Christ est mort et il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Et même dans 1 Corinthiens 15, il est écrit que Dieu a tout mis sous ses pieds, sous les pieds du Seigneur Jésus. Il a tout mis, c'est-à-dire que le Seigneur Jésus est au-dessus de tout, il maîtrise tout. Et il peut marcher sur nos difficultés, il contrôle tout, il maîtrise tout, il connaît tout. Le Seigneur Jésus est au milieu de nous. Et nous avons besoin de le croire. Et nous avons besoin de nous rafraîchir le cœur, la mémoire, pour pouvoir résister, pour pouvoir être fidèles jusqu'au bout. Deux autres versets que je voudrais que nous lisions. 1 Pierre 3, verset 22. Vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges et les autorités et les puissances lui ont été soumis. Bon, c'est pas une phrase bien que je lis là. On va prendre au verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. J'espère que vous avez apprécié l'expression « les anges, les autorités et les puissances ont été soumis à Jésus-Christ ». Vous le croyez, frères et sœurs ? Alors, le but de mon message, ce n'est pas d'attendre 10h15, 9h15. Le but de mon message, c'est de faire de chacun d'entre nous des hommes solides. Solide aujourd'hui, solide demain, persévérant dans les bons jours, persévérant dans les mauvais jours, fidèle à Jésus-Christ, fidèle jusqu'au bout. Et puis dans Éphésiens chapitre 1, nous lirons le verset 19. que vous sachiez qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Que vous sachiez quelle est l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. La puissance de Jésus, elle se manifeste avec efficacité. Oui, c'est vrai que le chrétien est soumis aux attaques de Satan. C'est vrai que dans l'enfer, des ordres sont donnés pour nous détruire et pour nous empêcher d'être fidèles. Mais c'est encore plus vrai que le chrétien est armé et que le chrétien a des armes terribles pour faire face à ces situations-là. La puissance de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs, cela ? Des armes extraordinaires. Mon troisième point, qui est en fait le but de ce message, c'est que même bien armé, le chrétien a besoin de persévérance afin de résister jusqu'au bout. Parce que si je chancelle dans les jours faciles, que risque-t-il de m'arriver dans les jours difficiles ? Et les jours difficiles viennent. Malheur aux habitants de la terre, Apocalypse 12, 12, de ce que le diable descend vers vous animé d'une grande colère. Justifié, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'il lui reste peu de temps et il veut réussir ce qu'il n'a pas encore réussi jusque-là. Actuellement, les églises s'enfoncent dans l'apostasie. L'apostasie, c'est un mot qui n'est pas... Vous ne verrez pas ça dans la dépêche, ça me surprendrait. C'est un mot qui indique un éloignement des bases. Un éloignement des bases. Et le texte de Thessaloniciens qui nous parle d'apostasie nous dit qu'au fur et à mesure que l'apostasie grandira dans le monde, quelqu'un se retirera des églises. Et que quand il se sera retiré, probablement, pratiquement des églises, l'Antichrist aura libre cours pour faire ce qu'il voudra. Donc actuellement, les églises s'enfoncent dans l'apostasie. C'est le moment de combattre, mes frères et sœurs. Et c'est souvent que je prie le Seigneur. Seigneur, le Seigneur sait ce que je suis en train de vous dire et que je vous dis une grande vérité. Souvent je prie, Seigneur, garde l'église de l'apostasie. Garde mes frères et sœurs, garde-moi, garde-nous de sombrer avec ceux qui sombrent, garde-nous de nous décourager avec ceux qui se découragent, garde-nous de fléchir avec ceux qui fléchissent, garde-nous, Seigneur, de tourner le dos avec ceux qui tournent le dos. Rends-nous vainqueurs, Seigneur Jésus, rends-nous vainqueurs. Plus l'iniquité se répand sur la terre, et plus le chrétien a besoin de persévérance pour garder les paroles de Jésus-Christ. Vous avez besoin de persévérance, c'est écrit. Plus l'iniquité se répand sur la terre, et plus les chrétiens ont besoin de persévérance pour garder les paroles de Jésus-Christ. Et je n'effraierai personne, certainement, en vous disant que l'iniquité grandit de plus en plus, que l'iniquité est de plus en plus présente dans ce monde, qu'elle n'est pas encore à son comble, mais qu'un jour elle va être à son comble. Et nous, chrétiens, nous avons besoin de tenir ferme dans ces mauvais jours, de résister dans ces mauvais jours. J'ai dit tout à l'heure que les assauts du diable commençaient en Genèse et se terminaient en Apocalypse. Lisons tout à fait à la fin de l'Apocalypse, ou quasiment, au chapitre 14, un curieux verset, étonnant. Chapitre 14 et au verset 12. Tout le chapitre 13 nous parle de l'Antichrist, de démons, de faux prophètes qui montent sur la terre, qui envahissent la terre. Et puis, au chapitre 14, il nous est rappelé que ceux qui auront suivi le faux prophète, la bête, seront tourmentés, que la fumée de leurs tourments, je suis au verset 11, monte au siècle des siècles, et qu'ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Puis tout d'un coup, ce verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Étonnant ce verset. Une autre version dit « Ici est la résistance des saints ». Chacun peut l'interpréter comme vous voulez. En ce qui me concerne, je trouve que la Bible nous avertit qu'au moment où ça ira très mal sur la terre, c'est là qu'on a besoin de la résistance des saints. C'est là que les saints auront besoin de résister. C'est ici, dans ce milieu hostile, dans ce panorama difficile, dans ce contexte lourd, c'est là que se place la résistance des saints. Un verset beaucoup plus facile à comprendre et que vous aimerez, je pense, c'est le verset 10 du chapitre 3 de l'Apocalypse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. C'est un verset peut-être pas facile à comprendre non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Une autre version, vous allez bien mieux comprendre, dit « Parce que tu as gardé ma consigne de résistance. » Vous comprenez mieux. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. » Parce que tu as gardé ma consigne de résistance, bien moi aussi, je te garderai. Je veux vous lire ce verset pour que personne ne dise, bon, moi je résisterai le moment venu. Aujourd'hui, je suis détaché. Non, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. C'est aujourd'hui, c'est ce soir dans cette réunion, c'est demain dans la journée du 1er mars, c'est dans le mois de mars, c'est dans les jours que nous vivons, que nous constituons la bénédiction pour les jours à venir. Parce que tu as gardé, je te garderai. Parce que tu as retenu ma consigne de résistance ou parce que tu as gardé ma parole de persévérance, ma consigne de persévérance, mes conseils de persévérance. Puisque tu les as gardés, moi aussi, dit le Seigneur Jésus, je te garderai. Dans Luc 21, 36, le Seigneur Jésus parle. Des jours difficiles. Verset 34, il dit, prenez garde à vous-même. Au verset 35, il dit que de mauvais jours viendront comme un filet sur tous les habitants de la terre. Comme un filet, c'est-à-dire sans bruit et sans être vu. Vous savez, le filet que l'on met pour capter les oiseaux, il ne se voit pas, il est confondu avec la végétation. Et puis, quand les oiseaux voient le filet, c'est trop tard. Et Jésus dit, verset 35, « Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Voulez-vous me dire s'il y a quelqu'un qui échappe à cela ? « Sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Puis au verset 36, eh bien Jésus donne son conseil. « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. » Je voulais juste que vous reteniez cela. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper. Ben oui, mais justement dans l'enfer, les ordres sont donnés pour nous empêcher de prier et de veiller. Et Satan se démène pour que nous soyons découragés, pour que nous nous endormions pendant que nous prions. Vous est jamais arrivé de vous endormir en priant ? Ben moi ça m'est arrivé. Et je vais même vous dire, la dernière fois, c'était cette nuit. Oh, Seigneur, je me suis endormi. Les ordres sont donnés pour que nous ne soyons pas vigilants, nous ne soyons pas fidèles, nous pensions autre chose et puis nous soyons distraits. Et pourtant, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper. Frères et sœurs, que ce soit notre consigne ce soir, de prier les uns pour les autres afin que le Seigneur nous garde. Tant mieux si vous priez pour que le Seigneur nous guérisse. Mais je ne parlais pas de la guérison. Que le Seigneur nous garde fidèles. Que le Seigneur nous garde debout. Que le Seigneur nous protège du malin. Que le Seigneur protège nos frères. Qu'il ramène ceux qui se sont découragés, ceux qui ont lâché prise, ceux qui ont abandonné. Mais qu'il nous garde, nous, de faire pareil. Car que nous servirait-il d'avoir été fidèles 49 ans si la 50e nous abandonnons le Seigneur? Il y en a des exemples comme celui-là. Enfin, dans Hébreux chapitre 10, on a lu tout à l'heure le début, je voudrais qu'on lise la fin maintenant. On a lu les versets 32, on va lire à partir du verset 35, Hébreux 10, 35. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. C'est pas clair, ça? N'abandonnez pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Eh bien, que le Seigneur nous donne de la persévérance. Et que chacun de nous ne se dise pas, je suis tout seul. Il n'y a que moi qui suis tenté. Il n'y a que moi qui suis oppressé et opprimé. Il n'y a que moi qui passe à travers l'épreuve. Tout le monde passe par l'épreuve. Est-ce que vous ressentez? Je le ressens. Nous le ressentons. Les pasteurs le ressentent. Quel que soit leur niveau spirituel. Et même. Je ne sais pas si c'est bien de le dire, si c'est vrai en plus, mais j'ai presque envie de dire que plus un homme cherche Dieu, et plus le diable cherche à le faire tomber et à l'empêcher de résister. Alors ma conclusion, c'est une phrase que je vais vous lire, je l'ai beaucoup réfléchi pour que vous puissiez, je puisse vous la lire deux fois. Ma conclusion, c'est ceci, la victoire du chrétien ne dépend pas de l'abandon du combat par notre adversaire. Si ce n'est pas clair, vous me le dites, j'arrangerai. Mais notre victoire dépend uniquement de notre attachement aux paroles de Jésus-Christ. Je répète, la victoire du chrétien ne dépend pas de l'abandon du combat par Satan. D'abord, il n'abandonnera pas. Mais notre victoire dépend uniquement de notre attachement aux paroles de Jésus-Christ. Vous avez vu les fils d'Éphraïm, en psaume 78, ils étaient équipés, ils étaient entraînés, ils étaient armés convenablement, et pourtant ils ont tourné le dos. Je n'ai pas voulu vous lire le verset qui précédait, c'est-à-dire le verset 8, mais je vous demande de le lire chez vous, parce qu'il vous expliquera pourquoi ils ont tourné le dos. Une race indocile et au cœur non solide. Que Dieu nous donne d'être solides, frères et sœurs. Vous voulez être solides? Que Dieu nous donne d'être solides et de tenir ferme jusqu'à la fin. Et prions les uns pour les autres pour cela. Amen.